Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welkom in het tweede en laatste deel van het grote interview met pastoor Wellars Ouamahoro van de Waalse parochie Saint-Remy in Braine-le-Château, juist over de taalgrens nabij de Vlaams-Brabantse stad Halle. Naar aanleiding van de aankomende marathon van woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei. Vonden we het interessant, dit interview, dat werd uitgezonden tijdens de marathon van vorig jaar november en slechts eenmaal kon beluisterd worden, opnieuw uit te zenden. Er was toen vraag naar. De aankomende marathon biedt daartoe een goede gelegenheid. En pastoor Wellars, geboortig uit Rwanda, is een zeer grote fan van Radio Maria, die in zijn land samen met de kerk een zo grote rol speelt voor de vrede en de verzoening. Zo ook steunden wij met onze radio over enkele jaren de opstart van een studio in de bedevaartsplaats Kibeho. Even kort wat pastoor Wellars ons vertelde in het eerste gedeelte. Hij werd dus geboren in 1975 in Rwanda uit een christelijk gezin als oudste van 7 kinderen. De naam Ouamahoro betekent vrede, wat hij ziet als een opdracht van zijn ouders, een man van vrede te zijn. Zo heeft elk kind een eigen familienaam. De voornaam Wellars is van Duitse oorsprong en verwijst naar een weinig gekende monnik uit de 7e eeuw. Maar het is een naam die zeer courant is in Rwanda. Hij werd priester gewijd in 2004. Zijn roeping gebeurde op een rustige wijze en ligt in de familiale christelijke omkadering en vooral na zijn eerste communie als kind via het Maria Legioen. En hij legde ons de 4 regels uit. Voor eerst de wekelijkse samenkomsten voor het bidden van de rozenkrans, het lezen uit het gebedenboek van het Maria-legioen en een verslag uit te brengen over de wekelijkse opdracht die men moest uitvoeren, bijvoorbeeld een zieke bezoeken. Een tweede regel is het dagelijks bidden van het Magnificat. Derde regel is het vervullen van die wekelijkse opdracht ten dienste van de naaste. En de vierde regel is dat deze goede daden, deze offerbereidheid, altijd in alle secretie worden vervuld. En zo kwamen we bij die vreselijke genocide, welke plaatsvond in 1994. Pastoor Wellars was toen 19 jaar oud en zat toen op het klein seminarie bij de jongens die dachten priester te worden. Hij legde ons uit hoe deze genocide zo bijzonder was, omdat Tutsi en Hutu eigenlijk uit eenzelfde cultuur komen en eenzelfde taal delen, in dezelfde heuvels wonen enzovoort. In zijn eigen familie zijn er Hutus en Tutsis. En dat maakt het nog allemaal zoveel erger. Op de vraag hoe hij dat heeft beleefd, antwoordde priester Wellars: ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van God, maar mij wel heel hard de vraag gesteld, maar waar is God? Als kind werd ons geleerd, als je bidt, dan antwoordt de Heer. Maar als je die moorden ziet, dan stel je vast dat Hij niet antwoordt. Maar hij vervolgde: nu, met mijn volwassen geloof, weet ik zeker dat God meegeleden heeft met hen die lijden en toch tussenkwam, maar op andere manieren. Zoals via eenvoudige mensen die anderen hebben verborgen en alzo gered. En daar zijn heiligen tussen. En dit ten koste van hun eigen leven. Hier zie je dat God wel ingegrepen heeft. beste vrienden. Zoals in het eerste deel gaan we ook hier luisteren naar de liederen van de katholieke Rwandese zanger Kizito Mihigo, die volgens officiële staatsbron zelfmoord pleegde in februari 2020 in de gevangenis, maar waar algemeen geloofd wordt dat hij er vermoord werd na jaren al vervolgd te zijn geweest. Priester Wellaars heeft voor hem een groot ontzag. En we gaan luisteren naar een eerste lied, een verrijzenislied. Hij leeft, hij leeft. Alle apostelen waren stom verbaasd en Thomas geloofde het niet. Zalig zijn de blinden die geloven. Alleluia. En zo volgde een volgende vraag aan pastoor Wellaars. Hoe gaat men nu om in Rwanda en ook de kerk met deze zware gebeurtenissen? Hoe wordt dit verwerkt?
Alors, c'est très compliqué puisque le génocide, comme vous comprenez, c'est une guerre civile. Donc, ça se fait dans une guerre civile. Ça veut dire que les gens qui sont opposés sont les gens qui vont continuer de vivre ensemble. Donc, ça, conséquence mauvaise et néfaste sur la, disons, la convivialité entre la population. Mais je dis, il y a eu d'autres guerres, d'autres génocides. Mais alors, quand c'est un pays qui attaque un autre pays, c'est parfois facile après de se reconstruire comme pays.
Wel, dit is zeer complex, want het gaat om een burgeroorlog. Het gaat om mensen die naast elkaar wonen. Dit is zeer nefast voor het kunnen samenleven met elkaar. Moest het gaan, zoals reeds gebeurde tussen twee volkeren uit verschillende landen, dan gaat het herstel nadien misschien gemakkelijker.
Maar als het aan het interieur van mijn pays, alors là, ça devient un peu compliqué, complexe. Et alors, donc, ça veut dire que ça fait déjà 26 ans qu'on a connu cette guerre et ce génocide. Ça veut dire que les séquelles sont toujours là. Les séquelles sont toujours là. Si un enfant est orphelin, que son papa et sa maman sont morts, il est maintenant, cet enfant, dans des moments clés de sa vie, il va sentir l'absence de son papa et sa maman, et ça, on ne peut jamais oublier. Si on a son papa qui est en prison, qui a été, donc qui est mort en prison ou en exil, on n'oublie jamais ça et on continue de vivre avec.
Maar hier is het binnen één land en is het herstel veel complexer. Nu zelfs 26 jaar na de feiten zijn de wonden er nog steeds, zoals kinderen die wees geworden zijn en hun vader en moeder missen, of wiens vader in de gevangenis heeft gezeten. Dat vergeet men niet. Men leeft daarmee verder.
L'Église participe modestement à l'œuvre de réconciliation. Il y a eu ce qu'on a appelé le synode. Le synode, vraiment, c'est l'Église catholique qui, en se préparant au jubilé de l'an 2000, qui correspondait avec les 100 ans de l'évangélisation du Rwanda, puisque les premiers missionnaires sont arrivés au Rwanda en 1900.
Vanuit de kerk werkt men mee aan het werk van de verzoening. Zo was er een synode, naar aanleiding van het nieuwe millennium in het jaar 2000. En dat viel ook samen met de 100ste verjaardag van de eerste missionarissen die naar Rwanda gekomen zijn in het jaar 1900.
Je vous rappelle que majoritairement les Rwandais sont chrétiens et catholiques. Donc la grande majorité c'est vraiment catholique. Donc plus de 50% sont catholiques. Alors l'Église a un mot à dire. Et alors on a participé à un synode pour essayer quand même de se dire oui, le génocide et la guerre ça a été un échec de nous tous puisque nous n'avons pas pu vraiment accueillir le message du Christ puisque c'est un message de la paix.
De priester herinnert ons dat de meerderheid van de Rwandezen christenen zijn en meer dan 50% is katholiek. Dus de kerk heeft toch iets te zeggen. De synode verklaarde dat deze genocide en oorlog ook een mislukking zijn van ons allemaal, daar we de boodschap van Christus, die vrede betekent, niet hebben kunnen doorgeven.
Cela ne veut pas dire que l'Église est la responsable du génocide, comme parfois quelques gens le disent, c'est vraiment ignorer la réalité. Si on avait entendu la voix de l'Église, on n'aurait pas connu le pire que nous avons connu, puisque les évêques ont fait tout pour établir un espace de paix de tout ça.
De pastoor merkt wel op dat dit niet betekent, zoals sommigen beweren, dat de kerk verantwoordelijk is voor deze genocide. Dat zou het ontkennen zijn van de feiten. Integendeel, had men de stem van de kerk gevolgd, dan was het nooit gekomen tot deze verschrikkelijke feiten. De bisschoppen hebben alles gedaan om de vrede te kunnen standhouden.
Justement, il y a des chrétiens, il y a l'un ou l'autre prêtre, l'un ou l'autre religieux, religieuse qui seraient accusés de ça, mais ça ne veut pas dire que l'Église a été vraiment irresponsable du génocide. Plutôt l'Église qui a tout fait pour évangéliser, pour annoncer le message de la paix, le message de l'amour.
Er zijn wel christenen geweest en hier en daar zelfs priesters en religieuzen die nadien wel werden beschuldigd. Maar dat betekent niet dat de kerk verantwoordelijk is voor deze genocide. De kerk heeft alles gedaan om de evangelische boodschap van vrede te brengen.
Je vous rappelle que la plupart des rescapés du génocide vraiment ont été sauvés dans des milieux de l'Église. Dans mon diocèse, même l'association, il y a une commission de lutte contre le génocide au Rwanda a reconnu que dans mon diocèse, c'est le centre où ont été sauvés plus de gens. Puisqu'il y a même des évêques, des prêtres, tout le monde s'est mis autour pour protéger, pour fournir de la nourriture, pour veiller.
Ik herinner eraan dat de opvang van diegenen die dreigden te worden vermoord, diegenen die anderen hebben verborgen, juist was in de kerkelijke middens. En hij geeft als voorbeeld hoe nadien een commissie heeft vastgesteld hoe in zijn bisdom de meesten werden opgevangen, verborgen, gevoed en alzo gered. En dit in samenwerking met de priesters en de bisschoppen.
Et donc l'Église, parfois, elle est accusée, mais ce n'est pas vrai. L'Église a fait tout pour éviter, mais on n'a pas écouté le message de l'Église. L'Église, les armes que l'Église utilise, ce sont les armes de l'amour, de la paix.
Dus de kerk beschuldigen is onjuist. De kerk heeft alles gedaan, maar men heeft niet naar haar geluisterd. En de wapens van de kerk zijn wapens van liefde en vrede.
Puis, vraiment, la fin du génocide, l'Église a participé dans la reconstruction matérielle des gens qui n'avaient pas de maison. Je connais des projets avec la Caritas dans mon diocèse, des gens qui ont trouvé des maisons. L'Église est la même dans mon diocèse. C'est l'Église qui a contribué à l'agrandissement de la prison de ma préfecture à l'époque, puisque il y avait beaucoup de prisonniers, ils risquaient vraiment de mourir dans des conditions misérables. L'administrateur diocésain qu'on avait à l'époque a contribué à l'agrandissement.
Vanaf het einde van de genocide heeft de kerk meegeholpen, zoals met Caritas, aan de materiële reconstructie. Vele mensen hadden geen huis meer. In zijn bisdom heeft de kerk ook geholpen voor de vergroting van de gevangenis, want de gevangenen stierven er door de miserabele omstandigheden.
Et puis alors, l'église au Rwanda, elle a des écoles. Moi-même, j'ai travaillé dans la pastorale des écoles. Donc, j'étais directeur d'une école secondaire au Rwanda. Je sais que vraiment, c'était des espaces où tous les enfants étaient accueillis, où on continue d'enseigner l'amour, d'enseigner la justice, la réconciliation.
Ik heb gewerkt in de onderwijspastoraal en was ook directeur van een middelbare school. Zo werden alle kinderen aangenomen in de scholen en er onderwezen in de liefde, de vrede, verzoening en rechtvaardigheid. Maar ik zat nog met een vraag. Rond het 90% van de Rwandezen noemt zich christen en iets meer dan 50% katholiek. Hoe verklaar je zo een dergelijke genocide binnen uiteindelijk eenzelfde volk?
C'est vrai, c'est un paradoxe. Mais en fait, le contexte du génocide, donc moi je me souviens, on a tué le président, et alors le pouvoir en fait, pendant le génocide, était dans les mains de ce qu'on appelait les Inerahamwe. Donc c'est vraiment une milice. En fait, il y a eu une anarchie totale du pouvoir. Alors c'est là qu'on peut comprendre en fait. Donc même les évêques, personne ne les écoutait plus. Donc il n'y avait plus aucune autorité. Ce sont des gens, parfois analphabètes, assoiffés de sang, qui dirigeaient le pays.
Het is een grote paradox. De context was de volgende. Het begon met de moord op de president. De macht was dan in handen van milities. Er was een totale anarchie. Ook naar de bisschoppen werd niet meer geluisterd. Er was geen enkel gezag meer. Velen waren analfabeten belust op bloed die het land leidden.
Dans ma colline, sur ma colline, c'est peut-être l'une ou deux personnes qui avaient des armes, puisqu'ils ont été armés, ils ont reçu des armes, et tout le monde alors ne savait plus quoi faire. Alors ce qu'on a fait, c'est protéger les gens, mais ça ne veut pas dire que, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que ceux qui ont participé dans le génocide, il n'y a pas de chrétiens, mais ce ne sont pas, c'est vraiment, comment dire, c'est comme des bandits, c'est comme des gens sans travail à qui vous donnez des armes et qui vont tuer d'abord pour récupérer les biens des gens qu'ils ont tués dans une situation de pauvreté. Tout ça, ça ne peut jamais justifier le génocide.
In onze regio, op onze heuvel, waren misschien 1 of 2 personen die werden bewapend. En de mensen wisten toen niet waar naartoe en velen werden dan verborgen. Ik zeg niet dat er geen christenen waren die moorden, Velen hadden geen werk. En ze krijgen wapens en doden op de eerste plaats om bezittingen te bemachtigen, daar ze in de armoede leefden. Uiteraard verrechtvaardigt dit hun daden niet.
Alors, c'est vraiment un paradoxe et nous l'acceptons humblement. C'est pour cela que je dis que le génocide, c'est un échec, justement, pour l'Église et pour les chrétiens. Mais c'est un échec puisque ces gens, quand même, aussi, il y en a qui avaient reçu le baptême et qui faisaient partie des chrétiens, mais qui n'ont pas su.
Het is inderdaad een paradox. En wij aanvaarden het in alle nederigheid. Zoals ik zei, deze genocide is een mislukking voor de kerk en de christenen. Onder de daders waren er ook gedoopten. Het is een mysterie van het kwaad. Paus Franciscus spreekt ook vaak over de duivel. Men denkt dat de duivel niet bestaat, maar wij hebben het hier beleefd.
Ça, c'est vraiment aussi le mystère du mal qui existe. Le pape François parle souvent du diable, on pense qu'il n'existe pas. Mais quand on a vu les gens tués, des gens qu'ils connaissent, que là, vraiment, on vit l'expérience du mal, oui.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, na dit zeer delicate thema over de verschrikkelijke gebeurtenissen en de gevolgen in Rwanda van deze genocide, keerden we in het interview met pastoor Wellaars Uwamahoro van de parochie Saint-Remy in Braine-le-Château terug naar zijn levensweg. Hoe komt het dat u hier in België terechtkwam?
D'abord pour vous dire que je vous ai dit que quand on a fêté le jubilé de 100 ans au Rwanda, mais c'était le jubilé de 2000 ans du christianisme dans l'église universelle. Alors figurez-vous que cette paroisse même de Braine-le-Château, avec le curé à l'époque, ils ont dit qu'ils allaient faire un acte de générosité missionnaire, de soutenir les études d'un séminariste quelque part. Et alors ils ont proposé à mon diocèse. Et mon évêque, c'est moi qui l'avais choisi.
Ik heb je verteld over de viering in het jaar 2000 van 100 jaar evangelisatie in Rwanda. Maar ook in de ganse kerk, de viering van 2000 jaar christendom. Deze parochie hier in Braine-le-Château, onder de toenmalige pastoor, wou een missionaire daad stellen. In het financieren van de studies van een seminarist in het bisdom in Rwanda. En de Rwandese bisschop had seminarist Wellaars uitgekozen.
Donc j'ai été parrainé dans mes études, au moins une partie de mes études, ça a été parrainé par les trois paroisses de l'unité pastorale ici de Braine-le-Château. Donc, qui vont financer mes études. Moi, je ne les connaissais pas. Je ne recevais rien. Ils versaient les collectes à mon diocèse. Le diocèse payait le séminaire.
En zo werd een deel van zijn studies betaald door de drie parochie-eenheden van Braine-le-Château. Priester Wellaars wist wel niet wie hem steunde. En het geld ging naar het bisdom.
Et donc alors, moi quand je suis devenu prêtre en 2004, j'ai travaillé comme directeur d'une école secondaire catholique de 600 enfants, donc filles et garçons avec un internat. Au Rwanda, les internats, les enfants restaient à l'école jusqu'aux vacances. Il y a des vacances de Noël, des vacances de Pâques, des vacances, des grandes vacances, mais sinon tout le temps, les enfants restaient à l'école avec un seul dimanche où les parents peuvent venir visiter.
Na mijn priesterwijding in 2004 werd ik directeur van een secundaire katholieke school met internaat met 600 leerlingen, jongens en meisjes. De kinderen gingen enkel naar huis met de kerst, paas en grote vakanties.
Alors après 3 ans, mon évêque m'a proposé de faire des études de théologie morale en Espagne. Donc j'ai quitté le Rwanda pour Madrid. À l'université de Comillas, c'est là où j'ai fait un master en théologie et en bioéthique. Mais alors, entre-temps, moi quand j'ai quitté le Rwanda en 2007, c'est en 2008 que le Rwanda va changer son système éducatif et on va basculer du français à l'anglais.
Na 3 jaar, in 2007, zond mijn bisschop me naar Spanje voor studies in de moraaltheologie aan de pauselijke universiteit Comillas in Madrid. Daar behaalde ik een master in bioethiek in 2009. Ondertussen in Rwanda wijzigde in 2008 de taal in het onderwijs van het Frans naar het Engels.
Donc, avant on enseignait en français. Puisque on a des liens historiques avec la Belgique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, puisque le Rwanda au départ était colonisé par les Allemands, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, on a chassé les Allemands de leur colonie d'Afrique.
Het Frans was er gekomen doordat het land na Wereldoorlog 1 in handen kwam van België, nadat de Duitsers werden verdreven die het daarvoor hadden gekoloniseerd.
Alors, comment changer de langue, du français à l'anglais? Alors, avec mon évêque, on a trouvé bien que je puisse continuer mes études dans une université où on parle anglais. Et c'est comme ça que le choix de l'université de Leuven puisque à l'œuvre, même si c'est en Flandre, donc on enseigne en flamand, mais en théologie à l'œuvre, on a une section anglophone où on accueille des étudiants internationaux.
Door deze taalwisseling in het onderwijs zond zijn bisschop hem naar een universiteit waar je in het Engels de lessen kon volgen. En zo kwam hij terecht in Leuven. Alhoewel het in Vlaanderen ligt, had men er een afdeling theologie in het Engels.
Mais alors, il a demandé quand même que je ne sois pas un étudiant seulement avec les livres, mais que je puisse aussi servir dans une communauté. Et alors, c'est le Brabant wallon qui a accepté de m'accueillir. J'ai été 2 ans dans une paroisse ici à côté, à Hautitre. J'étais vicaire à Toubize. Et après 2 ans, en 2009, alors l'évêque d'ici m'a nommé ici à Braine-le-Château. Je suis là. J'ai fait 5 ans comme vicaire. Donc en 2011, c'est l'année où je suis arrivé ici. 5 ans comme vicaire depuis 2016. Donc je suis devenu curé de ces deux paroisses de la communauté.
Maar zijn bisschop in Rwanda, wow. Dat hij niet enkel student zou zijn met vele boeken, maar ook actief in een parochie. En zo vertelt hij verder, zo werd ik ontvangen in Waals-Brabant. Eerst als onderpastoor in Hautes-Ytre en Toubize, en sinds 2009 in Braine-le-Château, en nu pastoor hier sinds 2016. Maar dan voegde hij het volgende eraan toe. Het toont hoe Gods wegen wonderbaar kunnen zijn.
Et c'est en plus justement la paroisse qui a parrainé, qui m'a parrainé. Même l'évêque qui m'a nommé ici ne savait pas que j'avais été parrainé par cette paroisse. Il ne le savait pas, il a su plus tard. Mais alors, moi, je le dis souvent, donc ma joie et mon bonheur.
Daarbij komt, roept hij uit, het is deze parochie die mijn studies meehielpen betalen toen ik seminarist was. En de bisschop hier was daarvan bij mijn benoeming niet op de hoogte. Dit was een grote vreugde en geluk voor mij.
En fait, nous les prêtres, nous réalisons vraiment que dans l'Église catholique, nous sommes frères. Aujourd'hui, Saint-Paul, dans la première lecture de la messe, nous disait on a un seul corps, une même foi, un seul baptême, et Dieu en tous. Ça, c'est un beau texte. Et alors, nous, les prêtres, qui parfois venons d'autres pays et sommes envoyés dans d'autres communautés, vraiment, nous faisons l'expérience de comment.
In feite, de priesters in de katholieke kerk zijn broeders. Zoals Sint Paulus schrijft, wij vormen één lichaam, éénzelfde geloof, éénzelfde doop. Wij priesters die zo komen uit andere landen, ervaren die eenheid ook zo.
Donc on arrive à Braine-le-Château, ils vous ont parrainé sans vous connaître, vous y arrivez vous aussi. Quelle joie et quel bonheur de servir cette communauté qui vous a aimé avant votre rencontre. Ils ont participé à ma vocation et au retour, moi aussi, je peux annoncer la bonne nouvelle, partager la joie de ma foi. Ça, c'est vraiment bon.
Het is daarom een grote vreugde en geluk hier in deze parochie ten dienste te mogen staan. Deze parochie die mij graag hebben gezien, alvorens me ooit te hebben ontmoet. Zij hebben meegewerkt aan mijn roeping en nu kan ik op mijn beurt aan de gelovigen hier de blijde boodschap verkondigen. En zo kwam ik aan een volgende vraag. U hebt nu pastorale ervaring, zowel in Rwanda als België. Wat hebben de Belgen te leren van de Rwandezen en omgekeerd?
Je dirais que toutes les populations, toutes les cultures, nous avons à apprendre les uns des autres. Et je pense que cela est important. Bien sûr, avec la Belgique, on partage une longue histoire, comme je l'ai dit. Moi qui viens d'un pays avec une histoire un peu triste, dont on a parlé, le génocide de la guerre et tout ça. voir le respect de chaque personne. Le respect de chaque personne.
Voor eerst, alle culturen hebben van elkaar iets te leren. Met België delen we een lange gemeenschappelijke periode. Voor de Rwandezen die uit een triestige periode komen met de genocide, bestaat er een grote les. Eerbied voor elke persoon.
De Rwandais, apprendre que avoir des opinions différentes, ça ne veut pas dire que l'autre est un ennemi. Justement, c'est dans la diversité, on est les uns les autres différents, mais heureusement qu'on est différents. Si tout le monde était comme comme une seule personne, on se serait même triste. Donc ça, j'ai appris ça de la Belgique.
Het aanvaarden dat er verschillende opinies kunnen zijn, dat er verschillen zijn, een diversiteit. Moest iedereen hetzelfde zijn, het zou maar droevig zijn. Dat heb ik hier geleerd.
Je veux vous dire une chose, c'est que les chrétiens en Belgique, en fait, ils ont tout l'entourage qui les décourage. Il y a des chrétiens, mais qui sont fort, vraiment engagés. Et qui le font malgré les découragements qui sont autour. Moi, dans ma paroisse ici, j'ai connu une fille que les parents décourageaient à venir à la messe. Mais qui avait une foi? Donc, j'ai appris qu'en Belgique, ce n'est peut-être pas la quantité qui compte, mais il y a la qualité. Il y a des gens qui sont profondément engagés et des gens aussi qui sont engagés sans rien gagner, donc qui se donne vraiment. Là, j'ai beaucoup appris.
Anderzijds, hier in België, ervaart een christen een omgeving die hem of haar ontmoedigt om naar de kerk te komen. Maar die christenen blijven zich toch volop krachtig engageren. Zo is er een meisje met een sterk geloof, maar die door haar ouders wordt ontmoedigd om naar de mis te komen. Dus hier in België is het niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit. Mensen die zich ten volle onbaatzuchtig inzetten. Dat leerde ik hier.
Et alors dans la foi, au Rwanda, malgré l'histoire qu'on a connue, mais on reste quand même fort. Fort pratiquant, on participe à la messe dominicale, et dire que tu ne vas pas à la messe, c'est tout le monde qui se demande est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé. Ça aussi, l'aspect communautaire de la vie chrétienne, appartenir vraiment, sentir qu'on appartient. La famille et l'église, ça va ensemble.
Voor de beleving van het geloof in Rwanda blijft men sterk pratiqueren. Men gaat er naar de zondagsmis. En als iemand niet komt, dan stelt men zich onmiddellijk de vraag, is hij of zij ziek? Dat christelijk gemeenschapsgevoel is bij ons zeer sterk. Kerk en gezin gaan nauw samen in Rwanda.
Alors, qu'est-ce qu'on apprendrait des Rwandais? Nous, les Rwandais, je dirais que nous sommes plus familiales. Plus on se soutient fort dans les familles. Parfois ici, je peux vous partager l'expérience. Parfois, je reçois des familles pour les funérailles et on me dit, tel ne viendra pas aux funérailles parce que il y a eu des petits soucis familiales. Tel avait programmé des vacances. Là, je me dis, mais quelles vacances si on a perdu son papa ou son frère et tout. Nous, on est plutôt familial et on est vraiment.
Wat kunnen we leren van de Rwandezen? Wij zijn wel meer familiaal. We steunen elkaar veel sterker. Bijvoorbeeld hier maak ik mee bij het familiebezoeken naar aanleiding van een begrafenis, dat men mij vertelde dat men niet zou komen wegens ofwel kleine oneenigheden in de familie, of men had een vakantie gepland en dat terwijl een vader of moeder of broer was overleden.
Et alors, ce qu'on peut apprendre, c'est aussi la spontanéité dans l'accueil, dans l'hospitalité. En fait, ça peut vous paraître bizarre, mais chez nous, quelqu'un peut venir vous visiter sans prendre rendez-vous. Ça ici, ça paraît bizarre, Mais nous, un cousin, un frère peut venir sans aviser, il peut rester 3 jours, 4 jours. Ça demande alors une spontanéité, être aussi flexible aussi.
Wat er in Rwanda ook is, is de spontaniteit om mensen te ontvangen. Bij ons kan je zo binnenspringen zonder een afspraak te maken. Hier is dat eerder bizar. In Rwanda mag je zo op bezoek komen en 3-4 dagen blijven. Ginder bestaat toch een grotere flexibiliteit.
Et alors, je peux penser aussi que on peut apprendre aussi le respect des personnes âgées. Je sens que ça, c'est fort souligné dans notre culture, le respect, l'écoute des personnes adultes qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Et alors, de deux côtés, on apprend.
Ten slotte haalt pasteur Wellaars ook de vaststelling aan hoe er in Rwanda toch wel een groter respect bestaat voor de ouderen. Het respect en het luisteren zit wel diep in de cultuur. Uiteindelijk van beide kanten valt er te leren. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken met een lied van de vermoorde Rwandese zanger Kizito Mihigo. Een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho, moeder van het woord.
Nina wa jambo urizuba ryarasiye mu Rwanda kibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igira amahoro. Ryarasiye iwacu kibeho ni naryo ryarasiye Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu Banyarwanda nibikwire muri Isirayeli. Tube hafi mana rurema duhore hafi nawe Bikira Maria tukuvuge mutoni mu bakobwa tukurate nyina wa jambo tukurate rembo rya rugira.
Kibeho rikabone
kandi kibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro.
En beste vrienden van onze radio, zo naderen we stilaan het einde van dit interview. En toen had de pastoor het over Radio Maria en het belang van de radio.
Oui, j'ai connu Radio Maria, puisque nous avons Radio Maria en Rwanda, je pense, depuis l'an 2004, si je me souviens bien. Et ça a été vraiment fondé dans mon diocèse d'origine, donc je connais les prêtres qui ont été à l'initiative, les gens qui ont travaillé là-bas dans les premiers lieux. Et je peux vous dire que vraiment, ça a été l'un des beaux cadeaux à l'Église et aux chrétiens catholiques du Rwanda, puisque, vous comprenez, au Rwanda, la plupart des gens n'habitent pas en ville, ils habitent vraiment sur les collines, à la campagne.
Ja, ik ken Radio Maria van in Rwanda. Als ik me niet vergis, bestaat deze radio al van in 2004 en zelfs in mijn bisdom. Ik ken de goede priesters en de mensen die er bij aanvang werkten. Dit is zeker een van de mooiste geschenken voor de kerk en de katholieken in het land. U moet weten dat de mensen er vooral wonen op de buiten, in de heuvels.
Alors la radio, c'est quelque chose qui ne demande pas, même quand vous n'avez pas l'électricité, vous pouvez acheter des piles pour mettre dans la radio, et même les annonces de décès, ça se passe vraiment à la radio. Alors là, ça veut dire que avec Radio Maria, pour des personnes âgées, pour des personnes qui ne savent pas, même qui ne savent pas lire, puisque nous, on est de tradition plus orale, on n'a pas beaucoup de livres pour nous nourrir spirituellement, à part la Bible et le livre des chrétiens. Avec Radio Maria, alors, ça arrive partout.
Zelfs al had je ter plaatse niet altijd elektriciteit, je kon de radio op pillen doen werken en toch luisteren. Zo kan je kerkelijk nieuws horen, zoals de overlijdens. Maar deze radio is ook zeer nuttig voor de ouderen, waaronder velen niet kunnen lezen. Wij zijn meer een volk die communiceert met woorden. Veel spirituele lectuur is er niet buiten de Bijbel en enkele gebedenboeken. En Radio Maria geraakt overal.
Et alors, pendant ce confinement, ça a été, je parle avec des confrères qui sont au Rwanda, ou même les membres de ma famille, puisque les gens ne pouvaient plus participer à la messe, ça a été vraiment, tout le monde était connecté, on me disait, quand j'appelais dans ma famille, on me disait, non, c'est bientôt la messe à Radio Maria, on va tous être connectés, on va suivre, et ça a été vraiment, donc c'est vraiment un outil d'évangélisation, que ça aide beaucoup de gens, et que ça peut arriver dans les coins les plus reculés, et que ça accompagne vraiment les gens dans leur vie quotidienne.
Zo was en is de radio, zoals bij ons, zeer welkom tijdens de lockdownperiode, toen de mensen ook niet meer de mis konden bijwonen. Dit hoorde ik van mijn priestercollega's en van mijn familie in Rwanda. Als ik belde naar mijn familie, zei men dan, we gaan het gesprek nu afsluiten, want de mis zal beginnen op de radio. Het is het middel voor evangelisatie dat veel mensen helpt en de meest afgelegen gebieden kan bereiken. Zo had de pastoor het ook over de oprichting van een studio in het Rwandese bedevaartsoord van Kibeho in 2018, waar de verschijningen dateren uit de periode tussen 1981 en 1989. Een station waarvan ook jullie financieel hebben meegedragen in de oprichting. Pastoor Wellaar zelf vertoefde reeds in België, maar kent uiteraard wel heel goed dit bedevaartsoord die hij regelmatig bezocht. Maar het heeft toch een zeer bijzondere opdracht in het licht van wat in het verleden gebeurde.
Kibeho s'est vu justement comme lieu fort de prière, de la réconciliation. C'est un lieu symbolique pour notre histoire, puisque ce qu'a dit la Vierge Marie, en fait, son message, c'était repentir vraiment. Repentez-vous, priez beaucoup. Malheureusement, on a vu qu'on n'a pas écouté le message de la Vierge Marie.
Kibeho is dan ook een sterke plaats voor gebed en verzoening, maar toch speciaal voor de Rwandezen. Het is een symbolische plaats voor onze geschiedenis. De boodschap van Maria is een oproep tot bekering en om veel te bidden. Spijtig genoeg werd de boodschap van Maria onvoldoende gehoord.
Où ce sera le lieu symbolique de la réconciliation, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de victimes, il y a des gens qui ont été tués là-bas, donc il y a eu des victimes de toutes parts, vraiment. Donc ça reste vraiment un lieu, non seulement pour les Rwandais, mais aussi pour justement les voisins de l'Afrique. Et heureusement d'ailleurs, puisque le message, la Vierge, c'est pour tout le monde, le message vraiment qui concerne l'Église entière, le monde entier.
Maar het is de plaats van de verzoening, want ook daar zijn heel veel slachtoffers gevallen. Maar het is niet alleen een plaats voor de Rwandezen, maar ook voor de buurlanden en uiteindelijk gericht naar de ganse wereldkerk.
Il y a des émissions qui sont faites par les commissions justice et paix qui sont présentes dans les diocèses et même dans les paroisses où vraiment on aborde ces thèmes. Et aussi, je me souviens, il y a des émissions de Radio Vatican aussi qui passent sur Radio Maria, ce qui est une ouverture à l'Église universelle, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est chrétien, mais membre justement d'un corps qui est au monde entier.
Ja, inderdaad, zo zijn er uitzendingen op Radio Maria, verzorgd door de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede van het Bisdom, waar dit thema, dus over verzoening, aan bod komt. Er is ook een programma Radio Vaticaan, die laat aanvoelen dat we niet alleen zijn, maar als christen deel uitmaken van een wereldkerk.
Je dirais le studio qui est à Tibéro permet à Radio Maria alors de transmettre en direct, puisqu'il y a beaucoup de monde le 15 août à l'Assomption, même dans d'autres moments comme le 28 novembre, où il y a justement donc la date anniversaire de ces apparitions, Notre-Dame du Verbe.
Er zijn daar zeer veel vieringen en bedevaarten, en deze radio geeft nu de mogelijkheid dit alles rechtstreeks uit te zenden, zoals op 15 augustus. En op de feestdag van de verschijningen op 28 november is daar heel veel volk. Men vereert er ons lieve vrouw van het woord. En beste vrienden, zo zijn we aan het einde van dit interview met pastoor Wellaars Ouamahoro van de Waalse parochie Saint-Remy in Braine-le-Château. Een interview afgenomen naar aanleiding van de marathon van november vorig jaar en uiteindelijk nooit heruitgezonden, wat sommigen spijtig vonden. En zo is de aankomende marathon op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei een mooie gelegenheid om het heruit te zenden. En wij hopen vooral dat deze data vermeld staan in jullie agenda of kalender. En mogen de laatste aanmoedigingen van de pastoor jullie aanzetten om met nog meer ijver de komende marathon volop te steunen. Want elk land heeft zijn specifieke problemen waar een radio veel goeds kan doen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en dus afspraak op 20 21 en 22 mei voor de aanstaande marathon.
Chers auditeurs flamands, comme le demande notre ami Joss, je suis dans la joie, je suis heureux dans la pastorale où je suis, mais la radio Maria, ça nous manque. Je prie le Seigneur et par l'intercession de la Vierge Marie que ça puisse se réaliser et que ça puisse nous accompagner, non seulement dans la vie pastorale de tous les jours, mais aussi accompagner des personnes qui traversent des moments où ils sont seuls, quand on est malade, mais nous savons que nous travaillons pour la gloire du Seigneur.
Cher Père Vares, merci beaucoup, cordialement, grand merci pour l'interview très riche à contenu.
Merci vraiment de contribuer à la création de cette radio. Je ne parle pas beaucoup flamand malheureusement, mais je peux dire thank you well.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Kugukunda bityo natwe dukundane nyabyo udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi udutoze kubabarirana tukugire mwikorezi. Arc-en-ciel, signe de l'espérance.